dans les oreilles de un invité.
Je suis Mathieu Bogart.
Jane Birkin.
Romain Gavras.
Luigi Sakamoto.
Monster.
Dans les oreilles, une vie en musique.
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ça, c'est une bonne question.
There are many, many songs. Pour moi, c'est difficile d'expliquer.
Nova.
À chacun sa BO.
D'abord, on m'a forcé à aller à l'opéra.
Ça m'a vraiment fasciné.
Le blues et le reggae.
C'était super bien.
Parce que la musique, c'est le plus profond langage humain.
Nova vous plonge dans les oreilles de
Voyou.
Je m'appelle Thibaut, j'ai un projet qui s'appelle Voyou, qui est plutôt de la musique chanson française, mais influencée par plein de types de musique. Et c'est entre de la pop et toutes les musiques que j'ai écoutées au fil de ma vie. Donc des musiques d'un peu partout dans le monde, d'un peu toutes les époques.
Dans les oreilles de...
Des musiques qui habitent celles du trompettiste et même multi-instrumentiste Voyou, dont la qualité des textes nous a conquis il y a quelques années déjà. Avec lui, on a croisé au coin d'une rue trois loubards, puis suivi un papillon avant de se lever dans un confort pas si confortable. De retour avec les royaumes minuscules, le Lillois a, comme l'écrit si bien Marie Cloque dans Libération, la pudeur de ne pas vous infliger ses tourments, mais de proposer avec optimisme des voix de consolation, des chansons refuge donc, composé, enregistré en partie au Brésil, pays cher aux musiciens qui remontent avec nous ce matin le fil musical de sa vie. Et pour commencer cette émission, par quelle musique Voyou souhaiteriez-vous vous présenter aux auditeurs de Radio Nova?
Je dirais un morceau qui est passé sur Nova pour me présenter qui serait pas mal. Donc c'est un morceau où je ne chante pas moi, mais c'est un morceau à moi quand même qui s'appelle Malika, qui est un morceau avec la chanteuse d'un groupe arménien qui s'appelle La Daniva. Ça représente bien ma musique parce que c'est à la fois sur un disque instrumental où j'ai fait beaucoup de recherches musicales et aussi où il y a justement cet invité qui vient montrer des influences qui viennent un peu de partout, quoi.
Les oreilles de
Voyou.
C'est accompagné de la chanteuse arménienne Jacqueline Bagdasarian du groupe La Daniva que Voyou a choisi de se présenter à nous. C'était Malika, extrait de ses Chroniques terrestres, disque sorti par notre invité en 2021. Et sur Nova, eh bien, je vous propose un départ immédiat pour l'île. Retour sur les premiers pas, les premiers souffles, les premiers kiffs de notre invité ce matin, le chanteur et trompettiste Voyou. Dans les oreilles de
Voyou.
Sur Radio Nova, à l'instant, un extrait de Sketches of Spain, sublime relecture jazz du concerto des Aranjuez de Rodrigo par le trompettiste Miles Davis, un disque enregistré en 1959 et 1960 sur des arrangements de Gil Evans, un air familier à notre invité ce matin, le musicien Voyou.
Mon premier souvenir musical, je crois que c'est Sketches of Spain de Miles Davis. C'est un album qui passait assez souvent quand j'étais petit chez moi. Et en fait, j'ai aussi le souvenir visuel de cet album parce que la pochette m'intriguait vachement. C'est une pochette qui est jaune et rouge avec juste la silhouette de Miles Davis qui joue de la trompette. Et mon père étant trompettiste, eh ben, j'avais cet instrument qui était toujours très présent à la maison. Et du coup, de voir, c'était, je pense, la première fois que je voyais quelqu'un d'autre sur une pochette qui jouait cet instrument, que j'identifiais ça. Et puis, ça rappelait à des racines espagnoles, parce que c'est un thème espagnol à la base, le concerto d'Aranjuez. Et ma mère étant prof d'espagnol, et ben, c'était aussi quelque chose de très présent. Donc, c'était le combiné de mon père avec la musique et de ma mère avec l'espagnol, avec au milieu la trompette, qui était le truc qui me fascinait le plus quand j'étais petit. Et tout ça mis avec ce visuel et cette musique, je crois que c'est mon vrai premier souvenir musical fort, quoi. Mon père, il jouait dans des quintettes de cuivre et dans des orchestres d'harmonie, des choses comme ça. Donc c'était vraiment la musique classique. Le jazz, c'était vraiment pas son fort, mais il y en avait un petit peu qui traînait dans les étagères à CD quand même. Quand j'étais petit, on écoutait beaucoup de variétés françaises, donc des choses comme Souchon et Woolsey. Il y avait du Dutronc, du William Scheller, du Paul Naref, du Barbara, des choses comme ça.
Maman est folle, on n'y peut rien, mais ce qui nous console, c'est qu'elle nous aime bien. Quand elle s'envole, on lui tient la main, comme un ballon frivole au gré du vent qui vient. Étoilée au pôle, surtout ne dis rien. Les gens dans leur cache-colle n'y comprendraient rien.
Il y avait du coup un petit peu de jazz, mais très peu, mais en fait du Miles Davis surtout quoi. Et puis après, sinon, il y avait pas mal de musique africaine, il y avait pas mal de musique d'Amérique du Sud aussi.
C'est toi qui m'avais dit que j'étais la lumière de ta vie. C'est toi qui m'avais dit que le ciel serait toujours bleu. Mais toi, tu es parti en oubliant tout ce qu'on s'était dit. Et toi, tu es parti en disant que tout est fini.
Et voilà, donc des musiques qui venaient d'un peu partout. J'ai pas toujours les noms de ce qu'on écoutait, mais il y avait de la salsa, il y avait parfois de la musique brésilienne, il y avait de la musique malienne aussi pas mal.
Et de la musique classique.
Ben, pas du bizarrement tout. Pas trop, parce que mon père faisait de la musique et du coup, il en écoutait pas énormément. Il y a cette catégorie des musiciens qui sont des gens qui font de la musique et qui du coup en écoutent très peu chez eux. Et lui, il faisait un peu partie de ces gens-là, c'est-à-dire qu'il avait une énorme étagère remplie de CD de toute la musique classique du monde. Mais en fait, je l'ai que très rarement vu sortir des albums et les écouter, quoi.
Nova, dans les oreilles de...
Voyou.
La première fois que j'ai eu une sorte de coup de cœur musical, je sais pas comment expliquer ça, c'était Billy the Kick, bizarrement. J'étais assez petit et c'est le premier disque où j'ai réclamé à pouvoir l'avoir et l'écouter. Et j'écoutais ça en boucle et c'était la première fois que j'avais l'impression qu'une musique m'appartenait, que j'étais le seul à l'aimer et à l'écouter. Et je découvrais cette espèce de plaisir d'écouter de la musique juste pour soi et d'écouter, de choisir les chansons que je voulais dans l'album. Et c'était comme une sorte de pré-crise d'adolescence, je sais pas, mais en tout cas je comprenais absolument rien à ce que ça voulait dire parce que c'est quand même des histoires de drogue, hein, beaucoup Billy the Kick, et j'étais un enfant. J'avais dû entendre ça à la radio sur la route des vacances ou quelque chose comme ça, et ça m'était rentré en tête tout de suite, et j'avais demandé à ce qu'on m'achète le CD pour pouvoir l'écouter, et j'écoutais ça en boucle. Mon tout premier disque, je crois que c'était celui-là mon premier disque, c'était Billy the Kick.
Un après-midi d'automne, j'avais trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi. C'est le chant du silo qui suffit. Qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Alors, après, le premier disque de l'adolescence, ça devait être un album de Sum 41, je crois. En fait, je suis allé vraiment à l'inverse de toutes les musiques que mes parents écoutaient. Donc plutôt, ils n'écoutaient pas du tout de rock, mes parents. Et du coup, j'ai eu quand même un vrai moment où moi, j'ai commencé à écouter notamment du punk californien et puis après du métal et du rock, du garage, du punk, des choses comme ça. Parce que c'était la musique que mes parents n'écoutaient pas du tout. Et je crois que j'avais besoin de me construire aussi en opposition à la musique que eux, ils écoutaient. Never going, never showing, never we had to. Attention, now we crave. Et du coup, pendant un moment, j'ai pas écouté trop de musique française et tout ça, quoi. J'étais très axé sur les groupes anglais. Et puis de là, j'ai commencé à écouter beaucoup de soul et de garage et de musique comme ça. Ça m'a pris de mettre de côté toutes les musiques que j'avais écoutées quand j'étais petit pour y revenir plus tard.
Dans les oreilles de...
Voyou. Commencé très jeune, j'ai commencé quand j'avais 3-4 ans à faire de la trompette avec mon père. Et après, à 5 ans, je suis rentré au conservatoire avec un peu d'avance. Et voilà, après, c'était une éducation particulière, le conservatoire. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qui m'a plu. Mais par contre, ça m'a quand même aidé à développer mon oreille et tout ça. Et à avoir une méthode pour apprendre des instruments de musique aussi, qui m'a servi après à apprendre tout seul plein d'instruments. Mais en parallèle, j'ai commencé à jouer de la musique aussi enfant, avec d'autres enfants, et avoir un groupe de jazz quand j'avais 6 ans où on jouait des petits classiques, des trucs très simples à jouer.
Mais vous jouiez quoi ?
On jouait, le premier morceau qu'on avait appris, c'était Sweet Georgia Brown, donc un petit air New Orleans, quoi, de jazz de la Nouvelle-Orléans. On jouait Les Copains d'abord, on jouait Blue Bossa, Cantaloupe Island, des choses comme ça, en version assez simplifiée, avec ce copain, il jouait de la guitare et moi je jouais de la trompette. En fait, on apprenait, c'est le père de ce gars-là qui nous avait appris à jouer ces morceaux-là. Et nous, on allait les jouer dans le petit village de vacances dans lequel j'étais. Tous les ans, on allait jouer ça dans la rue pour les touristes et on se faisait beaucoup d'argent avec ça, quoi.
Mais donc, ça voudrait dire que tes premières expériences de concert, c'est presque toi qui les donnes, les concerts ?
Ouais, c'était dans la rue, quoi. Qu'on traînait toute la journée dehors à faire n'importe quoi, et ben on avait de la terre plein le visage, et puis on était pieds nus et on avait l'air cracra à fond, quoi. Et du coup, on était tout crado dans la rue à jouer des petits airs de jazz et ça faisait fondre tous les touristes, quoi. Après, on amassait un maximum d'argent, on jouait franchement 20 minutes, une demi-heure, et ça nous permettait après d'inviter tous nos copains et copines du même âge et d'être des grandes tablées d'enfants au restaurant à bouffer des crêpes, voilà, aux frais des touristes, quoi. En fait, les vraies premières expériences de concert dont je me rappelle, c'est de voir mon père jouer. Il avait un quintet de cuivre, du coup, et puis il jouait des fois le mercredi après-midi. Donc ça a été vraiment mes premiers souvenirs de concert, c'était ça. Et puis après, j'étais allé voir Henri Dey, ses chansons plus Buffalo Horé, en concert au Zénith à Lille. Mais ça, je m'en rappelle assez peu finalement. J'ai plus de souvenirs de mon père qui joue. Et mes vrais premiers souvenirs de concert, c'est à la fois ça, de jouer dans la rue. Et à la fois, très petit aussi, je suis rentré dans l'orchestre d'harmonie de ma ville que mon père dirigeait.
Où je jouais de la trompette. Orchestre d'harmonie ?
Un orchestre d'harmonie, c'est, il faut s'imaginer un orchestre très populaire de villes très populaires, il y en a beaucoup dans le Nord, où en fait tout le monde est le bienvenu et tout le monde peut jouer quel que soit le niveau, quel que soit l'âge, voilà. Donc c'est un mélange de retraités qui reprennent l'instrument de leur jeunesse, qu'ils avaient appris à l'armée ou qu'ils avaient appris quand ils étaient plus jeunes, de gars qui jouent plutôt bien ou de filles qui jouent plutôt bien, qui sont en train de préparer des médailles d'or au conservatoire même parfois, et puis de gens un peu plus jeunes. Tous les gens de la ville ou du village se retrouvaient et c'était un endroit de discussion aussi, parce qu'après c'était aussi l'occasion d'aller boire des bières et tout. Moi, ça a été mon premier rapport à la vie d'adulte, c'est-à-dire que une fois que c'était fini, et ben j'accompagnais mon père et du coup tous les musiciens de l'orchestre, j'étais tout petit, mais je les accompagnais au bar, manger une frite et boire une bière, quoi. Donc je ne buvais pas de bière, mais j'avais le droit à ma menthe à l'eau, et puis je voyais les adultes parler entre eux, et puis parfois de choses très réjouissantes, et parfois des conditions un peu plus difficiles dans lesquelles les gens vivaient dans ces endroits-là de la France, quoi.
Dans les oreilles. Nova. Dans les oreilles de...
Voyou. Je crois qu'il y a des classiques, ouais. Dans les orchestres d'harmonie, par exemple, il y a Moi, les souvenirs que j'ai, c'est d'avoir joué une version de La Mère de Charles Trenet, d'avoir joué le Boléro de Ravel. En fait, c'est aussi... L'idée, c'est de jouer des choses que les gens ont envie d'entendre, que les gens ont envie de jouer aussi, parce que c'est vraiment un espace de plaisir, quoi. On est là pour jouer ce qu'on a envie de jouer. Et puis aussi, essayer de jouer des choses qui soient, que tout le monde puisse jouer, donc qui ne soient pas trop compliquées. Donc ouais, c'est... L'esprit, c'est vraiment... Il n'y a rien qui est axé sur la performance technique. Je pense que c'est le premier endroit où j'ai appris que c'était pas important... Enfin, qu'en fait, la musique pouvait aussi se développer en dehors de la technique musicale. Parce qu'à côté de ça, au conservatoire, on m'apprenait que la technique musicale, c'était la chose la plus importante. Et là, on m'apprenait que la chose la plus importante, c'était juste de jouer ensemble des choses que tout le monde avait envie d'écouter. Alors j'ai eu des périodes en fonction des styles de musique que j'écoutais où j'allais au concert plus ou moins. Je crois que la période de ma vie où je suis le plus allé en concert, c'était quand j'habitais à Nantes et que j'avais autour de la vingtaine, où j'écoutais beaucoup de garage et de punk, et il y avait des assos nantais qui faisaient venir des groupes de garage cultes, genre les Ossies, je sais pas, Intelligence, ce genre de groupe. Où en fait on voyait ces groupes en concert mais jouer dans des petites caves à Nantes ou dans des cafés-concerts. Et pour nous c'était fou, on avait l'impression d'avoir une chance monstrueuse de pouvoir voir des groupes comme ça dans des endroits si petits, d'être si proche d'eux, et ça, ça a été vraiment l'expérience de concert que j'ai le préféré.
Dans les oreilles de...
Voyou.
sur Radio Nova, Minotaur, morceau qui clôture le dernier album de The O.C.s en 2013. Dernier album avant une première pause pour le groupe de garage rock psyché californien que notre invité ce matin, le trompettiste, multi-instrumentiste et chanteur voyou, a vu souvent en concert à Nantes. Musicien, mais également grand mélomane, Voyou nous parle dans un instant des disques qui lui ont ouvert des voies de carnaval et des liens entre le Nord-Pas-de-Calais et le Brésil, avant de nous embarquer au Liban. Des oreilles voyageuses qui ont nourri sa propre musique.
¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde me ve la vida? ¿Dónde voy a vivir? Mírame, ya no tengo la calma, ya me caí de la cama, me voy a envenenar. Ay, soy un niño asustado, tengo el ritmo apagado, bailo sin respirar. Mírame, me ahogo en tu piscina. Déjame ya la salida, no quiero resucitar más. ¿Qué? Si fue un baile de fiesta, vengo de un manicomio, me caí con mi velita. Yo, que puedo bailar de cabeza, me fracturé la cadena, me tiraron al mar. Mírame, tengo 3000 dolores, me dieron con cañones. Tiro de soledad. Mírame, me perderé en mi barco, me comeré el pescado de tu reservación. Desafía el folclor. Ay, me buscará con rabia, me linchará borracho en mi lujuriosa casa tan triste, casa tan triste.
C'est avec ce deuxième disque Desesperanza que l'on a découvert ces rythmes hallucinogènes venus de Colombie. Les Meridian Brothers, formation d'Eblis Alvarez, débarqués en Europe, c'était en 2012. Une danse psychédélique qui a plu à notre invité, le musicien voyou.
Dans ma discothèque, il y a plusieurs disques qui sont des espèces d'incontournables que j'écoute toujours. Il y a un album des Meridian Brothers, qui est un groupe colombien qui fait une sorte de cumbia psychédélique incroyable. Et c'est un disque que j'ai acheté il y a assez longtemps et c'est un des disques que j'ai le plus écouté chez moi, je pense. Il s'appelle Desesperanza. Et ce disque-là, je l'ai acheté à sa sortie et c'est un disque qui m'a jamais quitté, que j'écoute vraiment très très souvent. En fait, ce qui me plaît dans ce disque-là, c'est qu'il est rempli de surprises. C'est des morceaux qui sont assez longs, qui sont assez libres dans le style et dans les arrangements. Et en fait, il se passe énormément de choses. Ça fourmille de plein de choses. Il y a beaucoup de percussions, il y a beaucoup de sons psychédéliques, de synthé. Il y a beaucoup de vrais instruments aussi. Et il y a une sorte de mélange assez fascinant de plein de choses différentes. Et puis, il y a plein de traitements bizarres sur les voix, sur les effets, sur les instruments. Et du coup... Il y a quelque chose, j'écoute ça et je comprends jamais complètement comment c'est fait. Et du coup, ça continue à me fasciner. Et je crois que j'ai besoin d'être surpris par la musique. Et pour pouvoir l'écouter toute une vie, il faut aussi que j'accepte l'idée de pas comprendre comment elle est faite, cette musique. Et cette musique-là, j'ai décidé très vite que j'avais pas envie de comprendre comment elle était faite et que je voulais juste continuer à l'écouter comme ça, quoi. Alors, il y a le disque d'Emaoi Tsege Mariam Gebru, cette pianiste éthiopienne. Je cite énormément cette dame, mais c'est un disque dont j'arrive pas à me défaire vraiment, quoi. C'est de la musique que je peux écouter vraiment tout le temps et qui m'accompagne tout le temps et j'y reviens toujours, toujours, toujours. J'arrive pas à me lasser de sa musique. C'est tellement beau, c'est tellement simple et ça vient tellement toucher un truc précis dans mon cœur que je me lasserai jamais de ça, je crois. J'avais découvert cet artiste avec un morceau qui s'appelle Mother Love d'elle et je l'avais découvert sur une compile Ethiopix et après j'ai cherché pendant super longtemps le vinyle de son album et en fait il n'existait pas je crois et un jour il y a un label qui s'appelle Mississippi Records qui a pressé un disque avec certaines des musiques de cette pianiste. Et quand il est sorti, je suis tombé dessus et je l'ai acheté tout de suite. Et là, je crois que je l'écoutais vraiment genre 4 fois par jour minimum l'album, quoi. Alors, il y a beaucoup de disques qui ont changé ma vision de la musique. Au fil des années, j'ai pris énormément de claques musicales qui m'ont donné l'impression qu'on pouvait faire de la musique différemment. Récemment, je crois que la discographie de Ziad Rabbani, c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément bouleversé. C'est-à-dire que je trouve ça extrêmement moderne et pourtant c'est très orchestral. Ça utilise plutôt des codes d'une musique assez ancienne. Tout est joué avec des vrais instruments. Et ça a été, ma dernière claque. وبما انه ما في احلى من الصراحه بصراحه ما عدت اني لك شي وانا حاسس بصراحه ما عدت انفع لشي ماشي واضح بصراحه ما عدت اني لك شي انا حاسس بصراحه ما عدت انفع لشي ماشي واضح بصراحه ما في احلى من الصراحه. Après, une des grosses claques de ma vie aussi dans la manière de faire de la musique, c'est quand j'ai découvert Jay Dilla et Madlib, ces artistes-là. En fait, j'ai découvert aussi l'importance de la texture, l'importance du traitement du son, de comment on pouvait jouer avec les sons et surtout l'importance de la destruction dans la musique, c'est-à-dire utiliser des choses qui sont belles et accepter de les détruire pour faire quelque chose d'autre et de pouvoir jouer avec la matière et surtout de ne pas être obligé de toujours respecter le son tel qu'il est enregistré. Et ça a été, je pense, ça a été une des plus grosses leçons de ma vie, c'est d'apprendre qu'un son était aussi fait pour qu'on joue avec et qu'on n'était pas obligé de toujours essayer de chercher de représenter le son tel qu'on l'entendait dans un espace acoustique, mais qu'on pouvait aussi le prendre et en faire exactement tout ce qu'on voulait. Yeah. It's too real. How y'all feel out there? Let me know if it's real out there.
rest is empty with no brain but the cover.
Et eux, ils ont notamment utilisé vachement la compression et les sidechains et ce genre de trucs, donc c'est des termes un peu techniques, mais en gros ils se sont dit, il y a cette musique qui est magnifique, on va la prendre et on va la détruire complètement et en faire quelque chose de complètement différent et la modifier, la pitcher, la faire bouger dans tous les sens, la faire réagir à d'autres instruments. Et je sais pas, ça a été un gros truc pour moi, quoi. Ça a été quelque chose de vraiment important dans ma connaissance du son. C'est d'un côté l'album que Madlib a fait avec MF Doom qui s'appelle Mad Villainy, et l'album J-Lib, donc qui est un album entre Jay Dilla et Madlib où il y a un morceau, c'est l'un qui fait la prod et l'autre qui rappe, et le morceau d'après c'est l'inverse. C'est des albums où il y a énormément de choses, donc il y a beaucoup de sampling, il y a beaucoup de musique qui existe déjà qui sont utilisées, et je sais pas, c'est la manière dont le son est traité, la manière dont les rythmiques sont créées, il y a énormément de choses là-dedans qui donne envie de passer des heures à écouter de la musique déjà, et puis après de s'en imprégner et d'en faire ce qu'on veut, quoi.
Nova. Dans les oreilles de
Voyou. Quand j'ai commencé Voyou, ce que j'avais dans les oreilles, au moment où je fais les premiers morceaux de Voyou, je crois que je suis dans une période où j'écoute beaucoup des artistes comme Deer Hunter, comme Mildight Club, Kate Lebon, Annika aussi. Donc c'est vraiment plutôt des artistes des scènes indé plutôt pop, plutôt électronique aussi. Je découvre aussi vachement la musique électronique, donc j'écoute Daniel Avery aussi beaucoup, son album Drone Logic qui me traînait vachement dans les oreilles aussi. Comment elle s'appelle cette artiste incroyable aussi, Molly Nilsson, des artistes comme ça. C'est un condensé de tous ces trucs-là. Il y a aussi Todd Terry à ce moment-là qui sort This Is Album, en tout cas, Album Time, un truc comme ça. C'est toutes ces musiques-là. Il y a aussi un peu Mac DeMarco, il y a Kurt Vile. Et puis à côté de ça aussi, j'écoute à fond d'Afrobeat. J'écoute Ebo Taylor, Fela Kuti. Pas mal de musique brésilienne aussi à ce moment-là. Donc à ce moment-là, j'étais vachement dans Jorge Bem, dans Gilberto Gil, donc vraiment des gros classiques, Gal Costa, tout ça. Donc c'est beaucoup, beaucoup de trucs très différents. Convidei a comadre Sebastiana pra dançar chachado na Paraíba. Ela veio com a dança diferente e pulava que nem uma bariba. Ela veio com a dança diferente e pulava que nem uma bariba. E gritava A, F, O, Y, e gritava A. Cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso, segurei Bastiana pelo braço e gritei. Et le Brésil, est-ce que tu dirais que justement, tu as une espèce de reconnaissance avec justement cette expérience dans l'orchestre d'harmonie, d'avoir fait partie d'un orchestre de rue?
Est-ce que tu as trouvé des
questions, similitudes mais...
Oui.
Ça va être très bizarre dit comme ça, hein, mais il y a une culture extrêmement commune dans la manière dont sont les gens et dans le rapport à la culture populaire entre le nord de la France et le Brésil. Donc le Brésil, c'est immense, donc c'est un peu absurde de dire le Brésil. Mais en tout cas, dans la culture des écoles de samba, dans la culture du carnaval, dans le nord, le carnaval, c'est quelque chose de très important. Et il y a ce truc de la culture populaire qui s'organise dans le nord des orchestres d'harmonie et au Brésil autour des écoles de samba par exemple, où en fait il y a ce truc de pas avoir grand chose mais de tout donner, il y a ce truc de se rassembler autour de la musique et autour de quelque chose de très festif, même quand on est dans un rapport assez, enfin à la vie qui est très dans la misère et dans la misère sociale notamment. Et du coup, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des liens extrêmement forts, même si ça paraît absurde, entre la culture populaire du Nord-Pas-de-Calais, et notamment les orchestres d'harmonie, et la culture autour du carnaval au Brésil, autour des écoles de samba. Et c'est hyper intéressant, la construction sociale du carnaval au Brésil. Mais il y a les écoles de samba, du coup, qui sont constituées de plein de gens qui ont des métiers à côté, qui galèrent, tout ça, mais qui sont prêts à donner tout leur temps, et même s'ils passent genre 15 heures par jour à travailler comme des chiens, et ben le soir, ils vont quand même aller à l'école de samba pour répéter pour le carnaval, et ils donnent tout leur temps et toute leur énergie pour ce truc-là, parce que ça va être l'espèce de réjouissance d'un moment, et que en fait, ils sont prêts à s'épuiser juste pour pouvoir ressentir cette joie à ce moment-là. Et du coup, ils se créent un lien de partage entre les gens, et c'est des gens de plein milieu sociaux qui se rencontrent, qui vivent ensemble, et je pense que c'est un truc qui est hyper important pour le vivre ensemble et pour comprendre les autres. C'est justement d'être mélangé entre couches sociales différentes, entre cultures différentes. Et le Brésil est un endroit qui est très brassé culturellement et en termes d'origine aussi. Et du coup, c'est vrai que je sais pas, le Nord c'est pareil, quoi. C'est un haut lieu de l'immigration. Il y a eu beaucoup d'ouvriers et du coup il y a eu aussi beaucoup d'immigration dans le Nord et des cultures qui se rencontrent autour de choses comme ça, quoi. من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم
أصبحت في المساء وحدها oreilles. Dans les oreilles.
Nova.
Dans les oreilles de...
Voyou.
Dans les oreilles de Voyou, nous voilà portés par l'une des plus belles voix du monde arabe, Fairouz, chantée Libéroute, un hommage à la capitale libanaise, qui nous offre par ailleurs un aperçu des musiques qui ont accompagné la création des royaumes minuscules. Dernier disque de notre invité, le musicien Voyou.
Sur l'album, déjà, j'ai mis... ça a pris 3 ans, l'écriture, à peu près. Ce qui a été dans mes oreilles à ce moment-là, pendant l'écriture, pendant ces 3 années, ça a été à la fois énormément de musique, beaucoup de musique. J'écoutais beaucoup de la scène jazz actuelle anglaise, de la scène soul aussi. Beaucoup de musique libanaise, énormément d'artistes libanais. Y a eu Issam Ajali, beaucoup... Il y a eu Ziad Rabbani. Il y a un album moi que j'adore de Fairouz, où il a fait, parce que c'est le fils de Fairouz, Ziad Rabbani, et il a beaucoup fait ses arrangements. Et je sais qu'il a eu une période un peu Brésil où notamment il était allé. Ils ont fait un album ensemble qui a été réédité il y a pas longtemps, qui est super beau je trouve, où justement il est un peu dans des phases bossa nova comme ça. Après, j'ai écouté pas mal de pop japonaise aussi, de musique, je sais pas, beaucoup de musique brésilienne, de musique d'Amérique du Sud, de musique d'un peu partout en Afrique, parce qu'il y avait tous les textes à écrire et que les textes, parfois je commençais quelque chose et j'avais pas encore, j'ouvrais une boîte de quelque chose dont j'avais besoin de parler, et il me fallait, il y a des textes, ça m'a pris 2 ans, parfois 3 ans à les finir, parce que j'avais pas encore compris ce que je voulais raconter. J'avais pas encore la fin de l'histoire parce que j'avais pas vécu, ou autour de moi on n'avait pas encore vécu ce qui donnait la fin de l'histoire.
Je me déplace tout doucement et ça m'arrange, comme une limace sans trop forcer. Je me balance de gauche à droite au ralenti. Le monde est si joli au ralenti. J'ai tout le temps d'y voir. Du jour au crépuscule, tous ces royaumes minuscules qui se façonnent sous nos yeux.
Dans l'écriture de paroles, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont inspiré ? En fait, moi, ce qui m'inspire le plus dans l'écriture de paroles, à vrai dire, c'est plus les films et entendre les gens parler entre eux dans la rue, dans les... Je sais pas, en fait, c'est la parole plus que la chanson qui m'a inspiré dans l'écriture, je pense. Et du coup, les dialogues des films, c'est vraiment un truc précieux pour moi. Et j'ai eu une grosse phase où j'écoutais beaucoup, enfin où je regardais beaucoup de films de Blié, par exemple, ou de cette génération où le dialogue était très important.
Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Tu vas te rendre malade avec tes régimes à la con.
Qu'est-ce que tu veux, moi, la ligne patapouf ? C'est pas mon style.
C'est, je sais pas, plus récemment, des réalisateurs comme Guillaume Braque ou comme Antonin Peretchatko. C'est aussi des réals qui ont remis au goût du jour la poésie dans le dialogue. C'est-à-dire, c'est jamais potache et ça peut être drôle, mais à la fois, c'est toujours dit avec le beau mot, avec... c'est bien écrit, quoi. Et en fait, j'aime bien les dialogues qui sont bien écrits et qui donnent l'impression que les personnages sont pas juste là pour faire... Enfin, pas là pour, juste pour raconter une histoire, mais aussi pour offrir un peu de poésie, quoi.
Enfin, après tout, la vie, c'est du vent.
Tiens, Hector.
Julo, salut.
Qu'est-ce que tu fais là?
Je profite de l'été, à côté de la date du jour, et je fais semblant que c'est ma bagnole.
Le mec, parce que ça t'a peur de faire ça, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de faire comme moi. Va au cours du soir, plutôt que de garder le musée.
Waouh, salut les mecs. Elle est à vous, cette voiture?
Ouais.
Vous voulez pas venir boire un coup avec moi? Je suis avec une copine à la terrasse du bar des jeunes, là.
Bon, ok, d'accord.
Il a qu'à venir aussi, votre copain.
Ah, c'est pas mon copain. Je le connais pas, ce type. Salut.
Bon, après tout, ça me fera peut-être oublier la fille du 14 juillet.
Nova. Dans les oreilles de...
Voyou.
Et c'est pour ça que tes chansons, par moments, c'est un peu des petits plans séquences.
Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons.
En tout cas, j'essaie d'arriver avec une histoire et d'aller au bout, c'est-à-dire de présenter une situation, d'essayer de mettre en place un décor, en utilisant aussi la musique pour donner des tonalités au décor, pour donner, je sais pas, une saison, une odeur, une couleur. Et après, ouais, d'essayer de décrire au maximum dans les textes ce qui se passe, de décrire les personnages, d'essayer de comprendre un peu. Mais comme un réalisateur essaie de faire dans un film, il essaie de présenter un peu la psychologie de ses personnages, de les mettre dans un décor qui va correspondre à ça, et puis de mener une histoire jusqu'au bout. C'est un peu ce que j'essaie de faire. Après, c'est assez délicat avec la chanson parce que l'espace est assez restreint pour raconter tout ça. C'est des petites équations à résoudre. Une fois qu'on a l'impression d'avoir résolu ça, d'avoir réussi à tout dévoiler, c'est-à-dire à dévoiler le décor, la température, si c'est ensoleillé, si c'est gris, si c'est triste, si c'est joyeux. Et d'avoir au milieu de tout ça réussi à raconter une histoire en donnant l'impression de qui sont les personnages. Là, quand moi j'ai l'impression d'avoir réussi à faire ça, ça me rend extrêmement heureux, quoi.
Tu passais des heures avant entre les marronniers, à compter les boutons d'or, à jouer sans arrêt. Quand d'un coup de vent de terre, augure d'hiver, tu t'es recroquevillé en bloc de pierre. Et ce quelque chose dans l'air qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Et tu restais sans rien dire à fixer le néant comme un aimant.
Et comment tu aimes écouter la musique ?
Moi j'aime beaucoup, en fait la musique déjà je la découvre chez le disquaire, donc je sais que c'est un peu à l'ancienne, que c'est pas très moderne, mais j'ai vraiment mes dealers de musique, quoi. Je sais pas si on peut dire comme ça. Je laisse le soin à des gens qui ont leur journée entière pour découvrir des disques de me confier après la musique, c'est-à-dire que je vais chez des disquaires qui me connaissent très bien. Quand je vais chez eux, et ben directement ils vont me mettre une pile de disques dans les mains, ils vont me dire ça va te plaire, ça c'est cool, ça c'est là, ça vient de ça. Donc à la fois, j'ai très rapidement un condensé de la musique que je vais découvrir. Donc il y a un endroit où j'écoute beaucoup de musique, c'est chez les disquaires, où je passe vachement de temps là-bas à écouter des disques, et je repars souvent avec beaucoup trop de disques, encore plus au fil des années, parce qu'ils commencent à me connaître de mieux en mieux. Et après, j'ai ce moment où d'un coup, je me retrouve seul chez moi avec la musique, et ça, c'est incroyable. Et du coup, j'ai un truc assez religieux avec la musique, où je l'écoute souvent sans rien faire d'autre. C'est-à-dire que c'est juste un moment que je prends où je mets un disque et je l'écoute et je fais rien d'autre en même temps. Et sinon, après, comme tout le monde, j'écoute ça dans des écouteurs quand je suis dans des transports et dans les trains, pareil. Mais sinon, ouais, c'est vraiment à la maison beaucoup et souvent en faisant rien d'autre que ça, quoi.
Et en ce moment, t'écoutes quoi ?
En ce moment, j'écoute une compile incroyable des mecs un gars de NTS qui a fait une compile folk incroyable, qui est trop belle, où il y a plein de trucs super différents, c'est de la folk expérimentale. Ça, j'écoute pas mal ça en ce moment. Je réécoute beaucoup un album en ce moment de Georges Ebem que j'ai acheté il y a assez longtemps et que j'avais un peu enterré et là qui est ressorti dans ma discothèque et du coup je l'écoute beaucoup ça. C'est une pochette blanche où il est avec un gros chien. Bemvinda Amizadeh. Je trouve trop bien cet album et je sais pas, là vu que c'est l'hiver, j'ai besoin de ça un peu, je sais pas.
Pois o boi, nem o carro são de carga. O boi...
Nova.
Dans les oreilles de...
Voyou. J'écoute beaucoup aussi Case Study One de Daniel César, parce que là, il ressort des morceaux en ce moment. Et vu qu'il en ressort que très peu, et j'adore cet artiste, c'est un artiste américain qui fait une sorte de R&B soul que j'aime beaucoup. Donc ça, j'écoute vraiment beaucoup en ce moment. Blaspheming the spirit, I just don't wanna hear it too deep. What I've sown, I'll continue to reap. I learned my key.
Est-ce qu'il y a un disque dont vous vous êtes aperçu que vous l'avez beaucoup transmis, que vous avez beaucoup aimé le faire découvrir?
En soi, le disque des Moïse Gemarim Gebru, c'est un disque, j'en ai énormément parlé. Je l'ai beaucoup transmis aussi. Plus récemment, Salt, le groupe Salt, tous leurs albums, je les ai vraiment. Je pense que c'est un des trucs que j'ai le plus saoulé les gens avec ça ces dernières années. J'ai énormément fait écouter ça. J'ai vraiment mis ce disque dans les mains de plein de gens, quoi. En fait, ce que j'adore avec Salt, c'est que c'est un groupe où il y a zéro image. J'ai tendance à... Il n'y a pas d'image d'eux, c'est que des images noires, quoi. Il n'y a rien. Et en fait...
C'est la musique.
C'est juste la musique, et je trouve qu'on est quand même ultra penché, ultra axé sur l'image, notamment avec les réseaux sociaux et tout. Je trouve qu'en fait, on écoute la musique quand l'image est belle, et ça a tendance à un peu me fatiguer de me dire qu'une musique va être privilégiée à une autre parce que l'image est mieux faite. Et je trouve qu'on finit par moins parler de musique et beaucoup plus d'image, et on va privilégier un artiste parce qu'il a des belles photos de presse, parce qu'il est beau, parce que. Il est bien habillé et tout ça. Et je trouve qu'en fait, ces choses-là ont finalement que peu à voir avec la musique. Et ce qui me plaît avec Salt, c'est qu'il donne rien à voir en termes d'image. Et c'est juste la musique. Et on est obligé de connecter que à ça. Et en fait, je trouve ça trop bien, quoi.
Quel est le dernier morceau que t'as écouté avant de venir ?
Le dernier morceau que j'ai écouté avant de venir, ça devait être hier soir, du coup. Ah mais non, le dernier morceau que j'ai écouté avant de venir, c'est terrible ce que je vais dire. Mais c'est un morceau à moi, parce qu'en fait, au moment où on enregistre, il y a le morceau Soleil Soleil qui vient tout juste de sortir, donc un morceau en featuring avec November Ultra. Et du coup, je suis allé, comme à chaque fois qu'un morceau à moi sort sur les plateformes, je vais l'écouter sur une plateforme de streaming pour voir le son que ça a en streaming. Pour voir ce que les gens vont écouter, parce que moi j'entends la musique avec des casques de monitoring dans des enceintes, et puis la musique au top de ce qu'on peut l'entendre, parce que c'est la version qui sort vraiment du studio de mastering, et je sais que les rapports de compression de la musique sont différents sur les plateformes de streaming, et du coup à chaque fois qu'un morceau sort, eh ben, je vais l'écouter pour savoir
comment il sonne,
comment il va sonner pour les gens. Donc je prends le système le plus basique, donc des écouteurs, ça sort d'un téléphone sur l'application et j'écoute comment ça sonne, et vu que le morceau est sorti cette nuit, et ben je l'ai écouté ce matin pour savoir comment les gens allaient l'entendre, quoi.
D'être à ne rien faire, à scruter des heures, assis à ma fenêtre, un rayon passe et tout vient à tout peu, tout petit rien prennent vie au fond de mes yeux.
Pour moi, la musique, c'est quelque chose qui est là pour créer des rappels dans le temps de moments qu'on a vécu, de sensations. Je vois ça comme une manière de transmettre aussi, de transmettre un état d'une période. C'est-à-dire que chaque chanson raconte quelque chose de l'époque à laquelle elle a été faite. Et je vois ça comme une grosse banque de souvenirs de l'humanité, quoi.
Une banque de données que Voyou, le musicien et le mélomane, nourrit avec générosité. C'est sous les rayons de Soleil, Soleil que vous découvrirez dans son dernier disque Les Royaumes Minuscules que s'achève cette immersion dans les oreilles du musicien. Merci à Mathieu Boudon pour la réalisation de cette émission qui vous aura donné envie, je l'espère, d'agrandir votre discothèque et dont, je vous rappelle, une version augmentée est disponible dès à présent en podcast. C'est-à-dire avec plus de musique et plus d'histoires autour de la musique. Quant à moi, vous le savez, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes côté Grand Mix de Radio Nova.
Nova.
Dans les oreilles. De...
En fait, la musique, elle est essentielle pour une chose, c'est mettre dans un état émotionnel.
Dans les oreilles.
La musique, c'est des sons organisés, c'est des respirations.
La musique, c'est le lien entre le matériel et l'immatériel.
Nova.
Retrouvez Dans les oreilles 2 et sa playlist sur nova.fr.